France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter, le 18-20. Christelle Rebière.
Le pays d'Artaud, c'est le titre d'un film qui sort demain au cinéma. Artaud est arménien et sa femme, jouée par Camille Cotin, part sur ses traces. Elle va découvrir ses secrets et les cicatrices de la guerre, notamment dans la région du Haut-Karabakh. Croiser des combattants debout ou fracassés, il y a de la douleur et de la mélancolie. Sa réalisatrice Tamara Stepanian est l'invitée d'Un jour dans le monde. Une nouvelle poussée de fièvre en Iran contre la vie chère. Dans Le Monde à l'endroit, Frédéric Saïs nous dira comment le régime arrive à tenir. Puis direction Haïti, en proie à la guerre des gangs.
Ici, on vit une vie très misérable. On parle, on vit, mais en réalité, on est déjà mort. Je travaillais à l'usine toute proche, mais elle a fermé à cause de l'insécurité, donc je n'ai même plus de travail.
Un reportage signé Jean-Mathieu Albertini. Un archipel cette fois, celui des Palaos. Dans Sous les radars, Alice Moreno nous parlera du pacte que ces îles de l'ouest du Pacifique ont conclu avec Trump. Et Caroline au pays des 27 dresse le portrait d'une Lorraine, Jeanne Ponté, qui a lancé MeToo Parlement au Parlement européen. Voilà, vous avez notre programme de vol. Il est temps de faire une première escale. C'était le 11 août dernier, la télé arménienne annonçait qu'un accord de paix était signé sous l'égide des États-Unis entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie après quatre décennies de conflits, en particulier autour de la région du Haut-Karabakh contrôlée par les séparatistes arméniens. Le dernier conflit en 2023 avait vu la victoire de l'Azerbaïdjan et l'exode de 120 000 arméniens. Alors l'accord tiendra-t-il? Personne ne le sait, tant les blessures sont encore à vif. Et ces cicatrices, ces traumas enfouis, cette fierté et cette mélancolie, on les retrouve au cinéma cette semaine. Dans le pays d'Artaud, on part aux côtés de Camille Cotin sur les traces de son mari en Arménie et de ses secrets. Bonsoir Tamara Stepanian.
Bonsoir.
C'est vous qui avez réalisé ce film. Vous avez quitté votre pays lorsque vous étiez à peine dans l'adolescence. Vous faites dire à l'autre héroïne de votre film qui est arménienne, nous sommes nés dans le sang et dans la guerre. C'est ce que vous ressentez aujourd'hui?
Malheureusement, oui. Et moi, comme plein d'autres Arméniens, depuis ma toute petite, je me souviens de la première guerre, 88, ça a commencé. J'avais à peine 6 ans. Et pareil, on a tellement vécu des guerres, des tremblements de terre et on a beaucoup de cicatrices dans notre pays, beaucoup de blessures. Mais oui, je me souviens très bien parce que j'avais 6 ans et tout le monde s'agitait autour de moi, mon père, mes oncles. Et en fait, la guerre, je pense que dans notre pays, ça va dans toutes les générations. Ça veut dire que la mère de ma grand-mère était rescapée de génocide 1915. Ma grand-mère était combattante pendant la Deuxième Guerre mondiale. La génération de mon père et les camarades, ils ont combattu en 88. Mes petits-neveux, mes neveux, mes cousins ont combattu dans la guerre de 2020. Je veux dire, et ça continue et ça n'arrête pas. Et malheureusement, on ne sait pas si ça va arrêter. On est né dans la guerre, on a grandi dans la guerre. J'espère juste qu'un jour, peut-être, on arrêtera d'être dans la guerre.
Alors Tamara, c'est votre premier long métrage de fiction. Jusqu'à présent, vous avez réalisé 4 documentaires qui exploraient déjà les cicatrices de votre pays, l'Arménie. Pourquoi ce besoin d'évoquer les mêmes thématiques, mais autrement?
Excusez-moi. Pardon.
Reprenez votre souffle et voilà, et buvez un petit peu d'eau, ça va passer.
Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le film, je savais déjà que je voulais brosser le portrait de mon pays. Pardon.
Voilà, je vous en prie.
Excusez-moi. Brosser le portrait d'un pays qui a été ravagé par génocide, par les guerres, par les traumas. Et c'est pas facile de faire ça à travers des documentaires. Donc, je pense que j'ai choisi la voie de fiction.
Ah, vous trouvez que c'est plus facile finalement par la fiction que par le documentaire?
Je trouve.
Parce que c'est une parole qui est plus difficile à obtenir?
Non, parce que je voulais aborder quelque chose de beaucoup plus complexe. C'était pas concret, c'était pas, par exemple, je veux traiter la guerre de 88, je veux traiter le trauma d'un certain soldat. Je voulais, comme je disais, brosser le portrait d'un pays plein de blessures, plein de traumas, plein de membres amputés et plein de cicatrices qui n'arrivent pas à être cicatrisées. Donc comment parler de quelque chose si grand, c'est une sorte d'histoire sur 100 ans, comment parler de quelque chose si grand à travers d'une petite histoire, non ?
Alors, on y vient à l'histoire de votre film. Camille Cotin est parisienne, elle a deux enfants, son mari arménien s'est suicidé quelques mois auparavant et elle part pour obtenir un extrait de naissance, elle part en Arménie, afin que ses enfants puissent avoir eux aussi la nationalité de leur père. On écoute un extrait.
Arto Santrosyan, fils de Suzanne et Gagik.
Fils de qui ?
Fils de Suzanne et Gagik.
C'est ça, Suzanne et Gagik, ce sont ses parents.
Vous êtes sûre ?
Oui, oui, c'est mon Arto. Bah oui, je suis sûre, c'est mon mari. C'est Suzanne et Gagik, ses parents, ça veut dire que c'est lui. Suzanne et Gagik, ils sont morts pendant le tremblement de terre en 88. Ça, vous pouvez le vérifier.
En tout cas, pour nous, Arto Sayan n'existe pas. Je vous note la dernière adresse d'Arto Santrosyan. Si c'est la même personne, vous devez le prouver.
Et comment ?
Je sais pas. Il faut avoir une bonne raison pour faire ça.
Pour faire quoi ?
Changer de nom.
Il a changé de nom et son mari n'est pas celui qu'il disait être.
Non, mais c'est exactement ça, parce que c'est ce que je voulais explorer, si vous voulez qu'elle arrive pour quelque chose de concret. Mais à partir du moment qu'elle est là, c'est un peu comme la pièce manquante de puzzle qu'elle a besoin de comprendre. Ça veut dire que pendant 20 ans, elle a vécu avec un homme, elle a aimé, ils se sont aimés. Mais là, elle arrive et ils me disent, ben non, en fait, c'est pas l'homme que vous avez connu. L'homme avec qui vous avez vécu avait une amoureuse. Il était combattant. Et
il a fait la guerre en 93.
Voilà, à cause de lui, il a des hommes qui sont morts. Donc, il a cette ouverture, cette pièce de puzzle qui manque pour qu'elle comprenne vraiment. Et elle a besoin de comprendre parce que comment transmettre ça aux enfants après ? C'est-à-dire qu'elle a besoin de faire le deuil, en même temps elle a besoin de transmettre, en même temps elle a besoin de... C'est comme compléter cet amour, elle a besoin de comprendre pour mieux terminer cet amour, pour mieux faire le deuil.
Pourquoi vous avez choisi Camille Cotin dans le rôle principal ?
Parce que je l'adore.
Ça, c'est une bonne raison. Mais alors, je vais inverser la question. Pourquoi a-t-elle accepté ?
Ah, ça, il faut demander à Camille, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous qui a été assez magique de première rencontre. Et comme dit Camille, hein, je répète ses mots, c'est qu'elle a été très touchée par moi et par mon histoire et par le scénario. Et je me souviens, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit « Mais merci de m'avoir proposé un si beau rôle d'une femme assez extraordinaire, qui est fragile, mais qui est forte, mais qui aime et qui est vraiment dans une sorte d'élan. » Enfin, pour moi, c'est un personnage qui est entre réel et presque un personnage de mythologie.
Oui, puis il y a des scènes aussi qui sont un petit peu oniriques avec, ouais. Avec Arto, justement. Et là, je trouve que Camille Cotin, elle est, comme vous le dites, forte et fragile, mais tout en retenue. Et on ne la voit pas forcément dans des rôles comme celui-là.
Ben moi, je pense aussi. Après, peut-être aussi c'est pour ça qu'elle a accepté aussi. Parce que Camille, elle aime bien varier. Elle aime le challenge. Elle aime des choses qu'elle ne connaît pas. Effectivement, elle ne connaissait pas l'Arménie. Voilà, c'est pas le genre de film qu'elle fait tous les jours. Mais je pense qu'elle a adoré. Elle était, même si parfois, ce n'était pas facile d'être loin de la famille. Mais on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire tous ensemble.
Alors, il y a Camille Cotin, mais il y a aussi d'excellents acteurs arméniens.
Absolument.
Et je pense à celle qui joue Arsine. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette combattante et de cette actrice ?
Alors, Arsine, c'est joué par Zahra Amir Ibrahimi, qui est une actrice iranienne exilée en France, qui a eu la Palme d'Or pour meilleure interprétation féminine il y a quelques années. Alors, elle joue arménienne, mais elle n'est pas du tout arménienne. Elle a appris à parler la langue pour le film. Elle le fait merveilleusement bien. Et je trouve que le duo Camille et Zahra Amir sont magnifiques ensemble, non ?
Oui, oui, mais alors, elle, c'est une combattante.
Non, enfin, elle est combattante dans le film. Elle est combattante dans le film. Arsine, c'est une arménienne qui reste pour garder, protéger le pays, protéger le papa, la terre. Pour moi, c'est un personnage assez mythologique aussi, parce que nous, on n'a pas des femmes combattantes en Arménie qui font ça. Beaucoup de gens me demandent, est-ce qu'on a beaucoup de femmes en Arménie qui transportent des drones ? J'ai dit, mais on n'a pas. C'est inventé par moi, avec mes co-scénaristes.
Et pourquoi vous avez eu envie d'inventer cette histoire-là ?
Parce que j'avais besoin... Parce que moi, je pense vraiment que
s'il n'y avait pas les femmes, on ne pourrait pas protéger ce pays comme on a fait. Depuis le génocide, tout l'héritage est passé par les femmes, toutes les valises ont été portées par les femmes, toutes les naissances étaient données par les femmes. Mmh. Et si aujourd'hui, j'irais si loin de dire si peut-être le pays était dirigé par une femme, on ne serait pas là. Mmh. Et je trouve que c'est mon côté féministe de dire que oui, une femme peut protéger la patrie, une femme peut protéger un homme qui est son père, une femme qui décide de ne pas avoir des enfants, une femme qui décide de rester dans la guerre, de rester dans le sang, mais parce qu'elle a ses devoirs. Mmh. C'est l'amour pour la patrie, c'est l'amour pour le père, c'est l'amour pour cet homme qui est aussi combattant, qui est imputé, mais ensemble, ils veulent protéger leur pays. Et oui, pourquoi pas?
Vous parlez des femmes, Tamara Stepanian. On dit que vous faites partie de la nouvelle vague du cinéma arménien. C'était plutôt une affaire d'hommes jusqu'à présent?
Absolument, c'était une affaire d'hommes pendant toute l'Union soviétique. Et dans les années 2000, quand on a commencé à faire des films, on était 2-3 femmes, on n'était pas nombreuses. Et beaucoup des hommes nous disaient, mais c'était un monde d'hommes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, les petites? Mais non, on a poussé des portes, on a poussé des portes en métal pour faire notre place.
Allez, j'aimerais bien qu'on écoute un deuxième extrait, parce que dans le film, il y a un moment que je trouve particulièrement intense, dans un minibus de transport collectif, où l'on entend cette chanson. Alors Tamara Stepanian, que raconte cette chanson?
La chanson dit « Mon adresse est le même ». Ça veut dire que c'est un homme au Karabakh, et c'est un vrai combattant, et c'est un vrai rappeur qui a travaillé dans mon film, et je demandais qu'il chante la chanson dans mon film. Mm-hmm. Et la chanson dit « N'importe quoi qui arrive, mon adresse restera la même ». Ça veut dire même si on perd ce territoire, même si on n'a plus au Karabakh, même si notre maison est brûlée, notre maison est ravagée, notre adresse restera toujours la même. Mmh. C'est le destin de beaucoup des Arméniens, vous savez.
C'est l'exil, mais je rentrerai chez moi. D'ailleurs, il y a un moment où les paroles disent « c'est une habitude, l'Arménien part à l'étranger, ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas notre pays, c'est juste qu'ailleurs il fait plus doux ».
C'est ça. Parce qu'on a un autre pays, parfois il fait trop froid, parfois il y a trop de guerres, il y a parfois trop de morts, et parfois on a juste besoin d'un peu de douceur, mais on revient toujours.
Alors, ça fait plus de 100 ans, vous le disiez au début de cette interview, que les Arméniens sont persécutés, sont contraints à l'exil. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont toujours aussi nombreux à partir?
Il y a beaucoup de gens qui partent, mais il y a aussi beaucoup qui reviennent. Il y a beaucoup des Arméniens, des diasporas maintenant, du Liban, du Syrie, de l'Irak, qui revient et qui vit en Arménie. Après, oui, il y a un peu ce rêve des jeunes d'aller étudier à l'extérieur, pourquoi pas, mais il y a ceux qui reviennent aussi.
Est-ce que vous, Tamara Stepanian, vous vous sentez exilée?
Ah, complètement.
Vous êtes partie, vous aviez 12 ans,
j'avais 12 ans, non, moi
vous
ça fait plus
Liban,
que 30 ans maintenant que je vis à l'extérieur. D'abord à Beyrouth, après j'ai fait des études à Copenhague, maintenant je suis à Paris. Et moi, je pense qu'une fois exilé, toujours exilé, c'est comme un arbre qu'on sort de ses racines. Mmh. Tu passes ton temps à essayer, tu mets tes racines à droite et gauche. Parfois, tu arrives, parfois, tu n'arrives pas. Mais moi, je pense qu'une fois exilé, c'est toujours exilé.
Mais est-ce que vous arrivez quand même à sentir votre pays aujourd'hui, malgré l'exil?
Mon pays Arménie ou mon pays la France?
L'Arménie.
Oui. Oui, je le sens très fort en moi. Moi, chaque été, je vais en Arménie. J'amène mes filles en Arménie. Je passe beaucoup de temps là-bas. J'ai des liens très forts. J'ai ma maman, j'ai ma famille. Mais aussi, très récemment, je me sens aussi très bien chez moi en France. Et ça, c'est très récent. Et je pense que ça fait aussi plaisir de sentir que tu arrives un peu à mettre tes racines quelque part.
Alors, pour en revenir à l'Arménie, ça a été une république soviétique.
Oui.
Ce pays est indépendant depuis 34 ans. Et géographiquement, l'Arménie est au carrefour entre l'Orient et l'Occident.
Oui.
Elle est candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Mais de qui, selon vous, est-elle vraiment le plus proche?
C'est très intéressant comme question. Moi, je pense qu'on a quelque chose de très européen en nous.
même dans notre culture, dans la façon qu'on a été éduqué, dans la mentalité. Mais effectivement, il y a quelque chose assez d'Orient, de Caucase. On a beaucoup d'influence, mais peut-être c'est ça aussi notre richesse d'avoir tous ces petits morceaux en nous. Mais je pense pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je dirais plus Europe.
Plus européen, ouais. Quand même. Pour en revenir à l'accord de paix, ce sera ma dernière question qui avait été conclue en août dernier, parce qu'on en parlait au début de cette interview. Les premiers échanges de carburant avec l'Azerbaïdjan ont eu lieu il y a quelques jours. Est-ce que vous croyez à une paix durable ?
À mon avis, non, je ne crois pas. Malheureusement, et il y a beaucoup des Arméniens aujourd'hui, surtout en Arménie, qui partagent mon avis. On ne croit pas parce que on a un sentiment d'être dans des mains des marionnettes qui jouent avec nous. J'espère, bien sûr, j'espère. Je veux que ça. Enfin, on veut tout ça. On veut la paix. Et on a besoin que notre terre n'a plus de sang parce qu'il y a trop de cimetières dans nos terres.
Merci infiniment Tamara Stepanian d'avoir été l'invitée d'Un jour dans le monde. Le pays d'Artaud sort demain au cinéma avec notamment une Camille Cotin surprenante et un beau portrait de l'Arménie d'aujourd'hui. On vous le recommande chaudement. La suite, c'est avec vous Frédéric Saïs et vous remettez le monde à l'endroit.
Les nouvelles manifestations en Iran seront-elles fatales au pouvoir en place?
Mais pour l'instant, on ondule, on roule les épaules et on danse. De Nusantarabit, comme ni leur nom ni leur musique ne l'indiquent. Mais si je vous dis que leurs parents sont indonésiens, c'est plus clair. Tamad dans la playlist de France Inter. How dare you? The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Le monde à l'endroit, Frédéric Saïs, en Iran, le régime des Mollahs va-t-il survivre ?
C'est un homme assis sur une route, le dos voûté. On ne voit pas son visage, il l'a recouvert avec un manteau noir pour échapper visiblement aux gaz lacrymogènes. Car face à lui, il y a plusieurs dizaines de motos des forces de sécurité iraniennes. Symboliquement, l'homme en noir leur bloque le passage. Cette scène, qui a été filmée hier dans une manifestation au centre de Téhéran, selon nos confrères de la BBC, en rappelle évidemment une autre, celle de la place Tiananmen, Pékin 1989, un homme seul qui s'oppose à l'avancée des chars du pouvoir. Alors ce protestataire iranien, assis sur la route, deviendra-t-il une icône historique, celle qui annonça, celle qui précéda la chute de la République islamique, ou bien cette image s'ajoutera-t-elle à la longue pile d'espoirs déçus, de révolutions interrompues pour les opposants au régime, régime qui depuis deux décennies en Iran vacille sans jamais s'effondrer totalement.
Car ces dernières années, les révoltes se sont multipliées.
Oui, depuis deux jours, la colère est partie des petits commerçants, des vendeurs de téléphones, étranglés par l'inflation et la chute de la monnaie iranienne. Aujourd'hui, des étudiants à Téhéran et à Ispahan ont tenté de joindre leurs forces au cortège, mais vous avez raison, il faut remonter beaucoup plus loin. 2009, juste après la présidentielle, accusation de triche électorale, à l'époque, manifestation et répression de ce qu'on a appelé le mouvement vert. Fin 2017, protestation contre le chômage et le coût de la vie. Fin 2019, émeutes et manifestations contre la hausse du prix des carburants, plus largement contre la crise économique, répression sanglante, 1500 morts, selon les décomptes de l'agence de presse Reuters. 2022, enfin, colère notamment des étudiants après la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme interpellée par la police pour une tenue jugée inappropriée. C'est le mouvement Femmes, Vie, Liberté, là encore, sévèrement réprimé.
Alors l'Iran est aussi soumis à des sanctions économiques puissantes de la part des Occidentaux. Comment expliquer qu'avec cette pression extérieure et donc intérieure, le régime des Mollahs tienne encore ?
Alors la première explication, c'est bien sûr la peur. Peur des arrestations, de l'emprisonnement, des tirs à balles réelles, malgré l'affaiblissement des gardiens de la Révolution, l'organe le plus puissant du pays. Ses chefs ont été décimés par les bombardements israéliens il y a 6 mois. Peur aussi du jour d'après. Que se passera-t-il si le régime tombe ? Parmi les strates conservatrices de la population, même celles qui rejettent la politique menée, la crainte du chaos reste un frein à la mobilisation. Un autre facteur, c'est la difficulté à unir tous les mécontentements. Les différents mouvements sociaux qu'on vient de citer n'avaient pas les mêmes motifs, pas les mêmes slogans, pas le même public. En 2017, les manifestations sont avant tout provinciales et plutôt masculines, centrées sur le coût de la vie. En 2022, elles sont plus urbaines et étudiantes, centrées sur les droits et la liberté.
La convergence des luttes, donc, selon l'expression consacrée, n'a pas abouti.
En tout cas, pas suffisamment pour entraîner un point de bascule, un courant assez fort qui renverserait le pouvoir. Le pouvoir, d'ailleurs, tente de casser cette convergence. D'un côté, il se dit à l'écoute des commerçants, il se montre ouvert sur les questions budgétaires. En revanche, il est sans pitié sur les questions politiques. Pour décourager les manifestations, le régime joue aussi sur la fibre patriotique. Manifester, c'est faire le jeu de l'ennemi, en l'occurrence les ennemis israéliens et américains. Donald Trump a plaidé pour un changement de régime à Téhéran, ce qui a renforcé encore la rhétorique des Mollahs. Mais pour combien de temps ?
Merci Frédéric, à demain. Le reportage d'un jour dans le monde nous emmène aux Antilles, en Haïti. Dans ce pays ravagé par les attaques de gangs, la violence est hors de contrôle, l'instabilité politique est chronique et la force internationale de sécurité inefficace. 16 000 personnes ont été tuées dans des violences armées depuis 2022, des fusillades, mais de plus en plus souvent aussi des attaques de drones. 1 300 000 personnes ont fui les violences, entraînant une désorganisation généralisée du pays. Dans la capitale, Port-au-Prince, le quotidien des habitants est bouleversé. Le reste, c'est Jean-Mathieu Albertini qui nous raconte.
Le van défoncé traverse un quartier autrefois prospère, à deux pas du Champ de Mars, l'ancien cœur du pouvoir haïtien. Déserté, marqué par les combats incessants, il a aujourd'hui des allures apocalyptiques. C'est le territoire des gangs, unis dans une coalition depuis 2 ans. Mind, un criminel local, méprise l'intervention internationale dirigée par les Kenyans depuis 2023.
Ils sont venus gagner un peu d'argent, pas gérer les questions sécuritaires.
La nouvelle intervention autorisée par l'ONU fin septembre avec des effectifs 5 fois plus importants ne l'inquiète pas plus. Des tirs trop proches forcent à se rapatrier dans le cimetière voisin, considéré plus sûr. Quelques rares habitants, toujours présents, comme Yasmine, viennent y trouver un abri précaire.
Je dois me prostituer pour survivre. J'ai dû donner mes enfants à différentes personnes. Ma maison a brûlé. C'est le seul endroit qui me reste. Le danger est partout. Il n'y a nulle part où aller.
Les autres ont été forcés à fuir. Quand les gangs s'emparent d'un quartier, ils tuent, pillent et violent. Du coup, des réfugiés s'entassent dans les 10% de la capitale qui leur échappent toujours. Émile Charles s'est installé où il a pu. Il faut grimper une bonne demi-heure pour arriver à sa cahute sur les hauteurs d'un bidonville. Cet agriculteur d'une commune voisine a tout perdu il y a 4 mois.
Ils ont débarqué par surprise, brûlé toutes nos plantations. Ceux qui ne sont pas partis sont morts. Deux de mes frères ont été tués.
Il ne sait pas où se trouve le reste de sa famille, n'a aucune perspective. Il attend, il est loin d'être le seul. Dans des écoles, des églises, des ministères abandonnés, les camps de réfugiés improvisés sont partout en ville. L'un des camps date du tremblement de terre meurtrier de 2010. Les plus anciens pensaient que les baraques de tôle appartenaient au passé, mais les derniers arrivants qui ont fui les violences s'installent comme ils peuvent. Dorival Magdala n'en peut plus de cet endroit.
Ici, on vit une vie très misérable. On parle, on vit, mais en réalité, on est déjà mort. Je travaillais à l'usine toute proche, mais elle a fermé à cause de l'insécurité, donc je n'ai même plus de travail.
La chaleur est étouffante, l'eau manque, et avec la flambée des prix due à l'insécurité, la nourriture se fait rare. Pour repousser les gangs, des milices soutenues par des policiers contrôlent les allées et venues. À la tombée de la nuit, Yves Lalot, responsable de la fermeture d'une barrière du quartier de Canapé Vert, ne fait pas mystère du sort réservé aux bandits et aux simples suspects.
Ils ont toujours ce qu'ils méritent. Quand vous entendez l'expression « bois calé », ça commence ici à Canapé Vert. Les bandits qui sont venus pour nous tuer, pour piller, ils sont tous tués lorsqu'ils pénètrent ici dans ce quartier.
L'expression « bois calé » désigne des lynchages se terminant en bûcher. Selon l'ONU, ces groupes ont tué 500 personnes depuis mars. Ils prospèrent face à l'instabilité politique chronique. Aucune élection n'a eu lieu depuis 2016. Il n'y a plus de parlementaires. Le président a été assassiné en 2021. Le premier ministre a démissionné en 2024. Et c'est depuis un conseil présidentiel de transition qui assure la conduite des affaires sous une avalanche de critiques. Dans ce contexte, l'activiste Féguinze Ménard doute de la tenue des élections prévues début 2026.
Leur mission était d'instaurer la sécurité pour organiser des élections. Mais le temps passe et rien ne change. Il n'y aura pas d'élections. L'État est absent. Il ne se manifeste que pour prendre, sans rendre aucun service à la population.
L'État absent.
Féguinze préfère tout parier sur la prochaine génération avec son mouvement Soldat Haïti. C'est pour ça qu'il reste. Un jour, peut-être, les choses s'amélioreront.
Un reportage signé Jean-Mathieu Albertini que nous avons choisi de rediffuser ce soir. Tout de suite, la suite d'Un jour dans le monde avec ce que vous avez trouvé sous les radars, Alice Moreno.
Nous irons en Chine où le gouvernement fait pression sur les portefeuilles pour relancer la natalité.
Et Caroline Gillet au pays des 27.
Je vous présente Jeanne Ponté. C'est elle qui a lancé le MeToo Parlement européen.
Et pour l'instant, on part en Angleterre pour un flashback 1974 et ce solo de guitare inoubliable en ouverture de Rebel Rebel, David Bowie.
Sure.
David Bowie et son androgynie dans Rebel Rebel, devenu un classique. Le 10 janvier prochain, ça fera 10 ans qu'il nous a laissés tout seuls. Sous les radars, Alice Moreno. Il est difficile de concrétiser la nouvelle politique du pays qui encourage à avoir 3 enfants, car le coût de la vie est assez élevé.
C'est le témoignage d'un citoyen chinois interrogé sur la politique du gouvernement visant à relancer la natalité. Le pays fait face depuis plusieurs années à une baisse des naissances, avec un taux de fécondité tombé à 1 enfant par femme, alors qu'il en faudrait au moins 2 pour maintenir une population stable. Le pays est victime d'une fécondité ultra faible, disent les Nations Unies. Et pour tenter d'inverser la tendance, les autorités chinoises prévoient, à compter de ce 1er janvier, d'augmenter le prix des préservatifs et des pilules contraceptives en appliquant à nouveau la taxe de 13% sur ces produits. En parallèle, est aussi prévu un allègement fiscal sur les systèmes de garde d'enfants et les agences matrimoniales. Voilà pour les outils de ce réarmement démographique à la chinoise. Des mesures qui ne font pas l'unanimité au sein de la population. Des internautes expriment leur scepticisme sur les réseaux sociaux, affirment que le coût pour élever un enfant reste trop important et que l'augmentation des prix des moyens de contraception risque de provoquer une recrudescence de grossesses non désirées, d'interruptions volontaires de grossesse et de maladies sexuellement transmissibles. Outre l'arme du portefeuille, le gouvernement mise aussi sur la propagande. Selon le correspondant du journal Le Monde à Pékin, des spots publicitaires mettent en avant les bienfaits de la famille nombreuse sur la santé et des panneaux routiers rappellent, je cite, que la plus grande richesse laissée par les parents à leurs enfants, ce sont des frères et sœurs.
Elle rêve de transmettre à ses enfants l'amour, l'attachement à ses terres dans l'archipel des Palaos.
Cette agricultrice d'une petite île du Pacifique veut prendre soin de ses terres au milieu de l'océan. L'archipel, très peu peuplé avec ses 17 000 habitants, abrite des lagons à la beauté inégalable et des forêts vierges. Mais derrière ces paysages paradisiaques, la situation économique, les opportunités d'emploi manque. C'est pourtant là, dans ces îles loin de tout, que le gouvernement américain a décidé d'envoyer 75 personnes migrantes originaires de pays tiers. Les Palaos ont accepté de les accueillir en échange de subventions, près de 15 millions de dollars attribués à diverses branches gouvernementales. Une opération qui rentre dans le cadre de la politique d'externalisation des frontières américaines avec un déplacement du contrôle migratoire. L'administration Trump multiplie ses accords ces derniers mois. En novembre dernier, les États-Unis ont également promis plusieurs millions d'euros à la Guinée équatoriale ou à l'Eswatini en échange de l'accueil de personnes migrantes. Des systèmes très décriés juridiquement qui imposent aux individus de démarrer une nouvelle vie dans des pays très reculés, aux régimes politiques parfois autoritaires et avec lesquels ils n'ont aucun lien.
Dans sa musique, il décrit la lutte d'un père pour nourrir sa famille et réclame plus de justice sociale. Le rappeur Balendra Shah pourrait bien devenir le futur Premier ministre du Népal.
Ce rappeur superstar au Népal, devenu maire de Katmandou et candidat aux élections législatives de mars prochain, il vient de former une alliance politique avec une autre idole de la jeunesse népalaise, l'animateur de télévision Rabi Lamishan. S'il remporte le scrutin avec leur parti national indépendant, l'ex-rappeur Balendra Shah deviendrait alors Premier ministre du pays. Ces figures du nouveau paysage politique népalais ont émergé dans la foulée du mouvement de révolte qui a soufflé sur le pays début septembre, porté par la Gen Z et qui a conduit au renversement du pouvoir en place. La jeune génération protestait alors contre les inégalités et la corruption et ont poussé le Premier ministre Sharma Orly à la démission. 76 personnes ont été tuées dans des affrontements. Des nouvelles figures, comme ces stars de la musique ou de la télévision, se sont alors engagés aux côtés des jeunes et promettent de répondre à leurs revendications.
Et c'est à suivre. Merci Alice.
France Inter, le 18-20.
Et Caroline Gillet, chaque semaine, vous dressez des portraits de ceux et celles qui, dans les institutions européennes, décident, réfléchissent, les petites mains, les gros cerveaux, et aussi celles et ceux qui tentent de changer ces institutions de l'intérieur. C'est le cas de la Lorraine Jeanne Ponté, qui a lancé MeToo Parlement.
Oui, et après ça, elle a travaillé pour la Commission sur une directive pour plus de transparence sur les fiches de paye, pour éviter les écarts entre hommes et femmes. En Europe, encore aujourd'hui, à travail égal, de valeur égale, une femme gagne 13% de moins qu'un homme. J'ai eu envie que Jeanne me raconte comment elle en était arrivée là, et quand je la rencontre, elle s'apprête à quitter les institutions européennes pour redevenir avocate.
Ce sera à la fin de son congé maternité et elle est sympa de venir me voir parce que cette nuit-là, elle s'est fait réveiller 7 fois.
Ah, j'ai bien besoin d'un café.
Je ne dors pas beaucoup avec un bébé de 2 mois.
Donc voilà, il faut que je connecte mes neurones.
Voilà, on connecte les neurones et on commence par une question facile. On est où ? Pour plus de facilité encore, je fais la première partie de la réponse. On est à Matongé, le quartier historiquement congolais de Bruxelles.
Exactement, on est derrière le Parlement européen, quartier Matongé, qui résiste à la gentrification.
Jeanne, quand elle est arrivée à Bruxelles pour travailler dans les institutions, a emménagé ici, sur le canapé d'un copain. Mais à ce moment-là, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle vivait en Belgique, à Bruges, où elle étudiait au prestigieux Collège d'Europe.
Je ne suis pas trop sentie à ma place en tant que petite fille d'ouvrier immigré italien. Je trouvais que ça manquait un peu de diversité.
Jeanne a grandi en Lorraine avec cette chanson, avec les films de Bridget Jones et les livres de Gisèle Halimi. Elle décide d'inviter le célèbre syndicaliste lorrain, Édouard Martin, à intervenir dans un de ses cours.
Et je m'étais dit, mais en fait, il faut absolument qu'il vienne parler à tous ces filles et fils de diplomates européens de la culture ouvrière européenne et du syndicalisme européen.
On est alors en décembre 2013 et Jeanne a 23 ans.
J'appelle tous les Édouard Martin de l'annuaire. Et puis le lendemain, magique, Édouard Martin, le vrai, le bon, m'appelle.
Édouard Martin, entre-temps, avait déclaré qu'il se présentait aux élections européennes de 2014.
Et puis il me dit, rencontrons-nous à Florange. Je me souviens, on fumait des cigarettes, on buvait du café dans des gobelets en plastique et puis on parlait Europe. Et puis il me dit, écoute, si je suis élue au mois de juin, je veux que tu travailles pour moi. Ça, on est en décembre et je me dis, mais oh, il bluffe. Et puis le lendemain des élections, il m'appelle en me disant, tu commences quand ?
C'est là que Jeanne s'installe donc sur le canapé lit d'un ami à Matongé.
C'est comme entrer dans un monde inconnu.
On écoute un petit extrait d'un documentaire de France 2 sur Édouard Martin. Ça date de 2016.
Édouard Martin était sidérurgiste. Syndicaliste. Il est désormais le député européen numéro 652 pour le Parti Socialiste.
Un jour, alors qu'elle accompagne Édouard Martin à une conférence, Jeanne est victime de harcèlement.
Je sens qu'il y a quelqu'un qui me regarde de manière très intense, qui commence à me suivre aussi. Et il me bloque la route en me touchant le ventre et en me disant « J'ai remarqué que vous étiez nouvelle. Est-ce que vous êtes journaliste ou est-ce que vous êtes secrétaire ou assistante ? Ça serait bien qu'on se fasse connaissance chez moi, tout en maintenant son bras. » J'ai compris après que c'était un député européen. Et en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, si cette personne me demande si je suis nouvelle, ça veut dire qu'en fait, il y a un peu une démarche, non pas de prédation quasi, de repérer qui seraient les nouvelles proies qui arrivent à Bruxelles et qui ne connaissent personne et qui parfois ne parlent même pas français, qui sont en stage, donc encore en plus précaire.
Jeanne me dit qu'on lui explique alors que c'est souvent comme ça en politique, qu'il faut s'habituer. Alors justement, pour ne pas s'habituer, elle décide de noter ce qui s'est passé dans un petit carnet. Et progressivement, d'autres femmes viennent lui raconter des expériences de harcèlement ou d'agression, qu'elle note aussi. Le petit carnet se remplit. Ensemble, une vingtaine de femmes créent un collectif en 2017 et elles lancent MeToo EP, MeToo Parlement européen.
La particularité réelle du Parlement européen, c'est que ce sont 3 lieux de travail différents. On sait très bien que le harcèlement sexuel, surtout parce qu'il y a 27 cultures différentes, on a tendance à dire « ah non mais c'est de l'humour, ah mais non c'est sa culture ». La particularité aussi, c'est que, à l'inverse de l'Assemblée nationale, on est assez loin des projecteurs, finalement, parce qu'on voit un peu les élus européens comme ceux qui auront déserté la scène nationale bon gré mal gré, quoi. Et les coups de projecteur, c'est un contre-pouvoir manifeste.
6h-9h. Édouard Martin, lors d'une interview donnée à France Bleu Sud-Lorraine, parle du petit carnet de Jeanne et des problèmes de harcèlement au Parlement.
Silence depuis la chute du producteur américain Harvey Weinstein.
Jeanne, à son tour, reçoit des demandes d'interview.
De la presse radio française, enfin régionale, c'est devenu la presse nationale puis européenne.
Jeanne Ponté, bonjour. Jeanne, bonjour.
Bonjour.
Que peut faire le Parlement européen ? On en parle avec vous, Jeanne Ponté.
Et donc ça se fait comme ça.
Parmi les mesures obtenues par le collectif, il y a la formation des nouveaux arrivants dans le Parlement aux questions de harcèlement pour les détecter et informer sur les recours possibles. La mise en place d'un système de conseillers de confiance.
C'est-à-dire des personnes qui sont formées par des psychologues pour être les premières interfaces dans des cas de harcèlement.
La recomposition du comité de lutte contre le harcèlement.
On a réussi à faire en sorte que maintenant il y ait un médecin, une personnalité du droit qui y soit et surtout des représentants des assistants parlementaires. Et donc pas des députés européens, parce que si moi-même je suis victime d'une action d'un député européen, je n'ai pas forcément envie d'aller parler à un de ses pairs.
La création d'un registre confidentiel.
géré par les ressources humaines, dans lequel il est possible de témoigner de situations d'agression.
Merci Caroline de nous avoir fait revivre cette rencontre que vous avez faite en juin dernier. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le 18-20 France Inter. On a encore beaucoup de choses à partager durant une heure. À suivre le journal de 19h présenté par Damien Mestre qui est près de moi dans le studio déjà. Et le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20 ce soir, chercher la femme en politique.
Message de Charlotte, 36 ans, maire d'une commune de Seine-Maritime. La place des femmes en politique est difficile. C'est un monde d'hommes faits et pensés pour les hommes. La parole est difficile à obtenir. Alors on n'a que deux possibilités, être la gentille qui ne fait pas trop de bruit ou l'emmerdeuse de service. Martine pense que l'engagement des femmes au sein des conseils municipaux dépend beaucoup de l'attitude des têtes de liste, plus ou moins macho. Hervé, élu d'une commune de 200 habitants, je trouve dégradant pour les femmes qu'on doive passer par une loi pour avoir la parité.
Voilà, le débat est ouvert. 01 45 24 7000, on en parle dans une vingtaine de minutes.